Escapade
et vous.
En studio
ou en balade autour d'un micro,
l'émission qui vous donne la parole.
Escapade et vous.
Les initiatives locales se racontent à l'antenne.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce plateau en extérieur spécial pour cette Escapade et vous qui se déroule depuis Saint-Jean-de-Buège pour la deuxième édition des rencontres agriculturelles. Bobine et Binette, c'est l'association qui porte cet événement depuis 2 ans et qui a déjà une histoire plus longue derrière elle, on aura le temps d'en reparler. Nous sommes donc sur le pont des Platanes qu'on appelle la piste ici, je crois, et je suis très bien entouré sur ce plateau radio. À ma gauche, déjà Stéphanie Roy, qui porte cet événement à bout de bras avec ses camarades depuis un moment. Et on est là, malgré le temps un peu incertain, mais nous, on est prêts à tout. Et voilà, on a un petit barnum au cas où il pleut. Ça va, Stéphanie ?
Oui, ça va très bien. Merci d'être là, c'est cool. Ouais. Et oui, on est prêts à tout. On s'est dit qu'il pouvait neiger, s'il voulait, on serait là. Ouais.
Les rencontres agriculturelles, donc en Buège, là, tu peux nous rappeler rapidement c'est quoi l'idée, qu'est-ce qui t'a ou qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça?
C'est une idée un peu farfelue qu'on a eue l'an dernier. Donc l'objet quand même de Bobine et Binette, c'est la création d'un tiers-lieu agriculturel, un lieu où il y a à la fois des exploitations agricoles et un pôle culturel, resto, ciné, bar et des outils mutualisés. Et nous n'avons pas de lieu, donc que fait-on quand on n'a pas de lieu et qu'on a un projet? On imagine des choses et on imagine des événements. Voilà. Alors après, plus précisément, il se trouve qu'on habite dans la vallée de la Buège ou aux alentours, qu'on est entouré d'élevage de brebis, que personnellement je suis une férue de la laine et que du coup on avait envie de mettre en valeur en fait le pastoralisme dans notre joli coin. Et donc, ça fait tout à fait sens avec l'objet de l'association, qui est de créer du lien entre agriculture et culture.
Le fameux fil donc, du sous-titre de du festival, du mouton à la laine, il n'y a qu'un fil. C'est encore la thématique et ça le restera, c'est ça?
Eh bien, alors, c'est parti pour. on s'est posé la question cette année, mais voilà, ça va le rester. Après, on a étendu cette année aux questions de biodiversité, d'alimentation et puis de paysage, puisque ce matin, il y avait une lecture de paysage avec Pic Assiette, qui a une balade botanique cet après-midi, qui aura des jeux sur l'alimentation pour les enfants cet après-midi également. Donc voilà, petit à petit, je pense qu'on va aussi élargir la thématique. Voilà.
Avant d'entamer la discussion avec nos invités qui ont justement beaucoup à dire sur la culture, l'agriculture et l'élevage aussi, on rappelle justement tout ce qu'on peut encore trouver ici à Saint-Jean-de-Buège pour inviter les gens qui nous écouteraient, qui seraient en voiture. Il est encore temps de prendre un rond-point
venez,
et de monter ici.
Rejoignez-nous. Il y a un marché d'artisans et de producteurs du coup jusqu'à 19h. Et puis, il y a pas mal de choses encore. Il y aura une démonstration de chiens de troupeau à 15h. Et puis, ce soir, on fait la fête, puisque ce soir, il y a le méchoui. Les moutons de Nathalie, qui est à côté de moi, sont en train de rôtir et seront servis à partir de 20h. Vous pouvez acheter vos tickets à partir de 17h. Et puis, on finira en danse, puisqu'il y aura Baltrade pour finir la journée.
Avec Balbichette.
Avec Balbichette, tout à fait.
Alors, sur cette table à côté de nous, des invités donc, que tu as toi-même sélectionné et trié sur le volet, parce qu'il y avait une demande énorme pour participer à ce plateau.
Et c'est énorme. On était sursollicités. Peut-être, excuse-moi, mais je vais peut-être, peut-être expliquer le cadre du plateau radio et du coup...
La thématique. Va essayer de tirer au cours de cette heure.
Oui. Du coup, il se trouve que cette année, l'événement a été labellisé par la région Printemps Citoyen pour sa dimension collective et participative. Et le Printemps Citoyen, donc la région, a fait un partenariat avec La Rosée, qui est le réseau des tiers-lieux d'Occitanie. Et La Rosée a proposé en fait, de mener des discussions de débat autour de certaines thématiques. Et nous, on a choisi celle de l'entrepreneuriat engagé, qu'on a décalé et qu'on a pris par le prisme en fait, de l'agriculture pour cette journée. Et donc, c'est ce pourquoi nous avons invité les personnes que tu vas présenter qui nous parlent à la fois en fait de leur métier, mais aussi en fait par le prisme du collectif, du tiers-lieu, qu'est-ce que c'est faire tiers-lieu aussi, je pense qu'on pourra en parler. Aujourd'hui, il n'y a plus de label tiers-lieu, mais en fait, faire tiers-lieu, c'est déjà quelque chose en soi. On n'a pas besoin d'être un tiers-lieu pour faire tiers-lieu. Voilà, donc ouais, je te laisse peut-être les présenter.
Et les démarches collectives, de manière générale, qui ont toujours le vent en poupe et qui reprennent même de plus belle. Donc, tu as raison, on va présenter nos invités. Donc, on a Nathalie Savallois à ta gauche, qu'on a déjà eu l'an dernier à ce plateau. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Toi, tu es éleveuse à côté, c'est ça ?
Oui, je suis éleveuse de brebis à Brissac.
D'accord. On a Julie Rodriguez à ta gauche qui fait de l'accompagnement en formation autour justement du collectif, en fait. On va pouvoir en discuter. Bonjour Julie.
Bonjour.
Et toi, tu es sur Montpellier plutôt ?
À Saint-Martin-de-Londres.
Saint-Martin-de-Londres, ok. On aura l'occasion d'y revenir. Et on a deux Aveyronnais, c'est ça, si je ne me trompe pas ?
Vous êtes mon corps dans l'Hérault.
Limite, ah, c'est l'Hérault. C'est donc Étienne de la ferme du Contrevent, c'est ça ?
C'est ça, sur le Larzac-Hérolté, à côté du cirque de Navacelles.
Voilà, une ferme en collectif, si j'ai bien compris.
Aussi, et aussi autour de l'élevage de brebis.
Très bien. Et Patrick Maillet, toi aussi, tu es dans la brebis à fond ?
Dans la brebis et dans la chèvre.
Et dans la chèvre.
Puisqu'on a un troupeau mixte, et on n'est qu'à moitié aveyronnais, et à moitié dans le sens où on partage notre temps entre l'Aveyron, le Gard et l'Hérault. On est en troupeau transhumant.
Ok. Stéphanie, on s'était dit qu'on commençait peut-être par partir d'ici et donc de votre aventure de tiers-lieu qui pour l'instant n'existe pas. Mais vu qu'avec Nathalie vous avez justement ce projet, est-ce que vous pouvez un peu essayer de nous expliquer comment est-ce qu'on imagine un tiers-lieu agriculturel ? Quelle place l'agriculturel, donc on peut préciser quand même, c'est un néologisme, je ne sais pas, vous l'avez inventé ?
Je ne sais pas si ce mot existe vraiment.
Ah. En tout cas, on comprend bien qu'on est entre l'agriculture et la culture dans le sens de la culture, je sais pas, sociale qui nous
relie
tous.
Oui, c'est vaste en fait. Nous, ça passe par le cinéma parce que c'est notre cœur de métier en fait. Donc nous, ça va plutôt être le cinéma. Mais en fait, la rencontre agriculturelle, c'est aussi, enfin la culture, c'est aussi la tombe des brebis. C'est aussi, voilà, c'est des aspects culturels en fait. Donc on met tout ça en fait là-dedans. C'est à la fois artistique et culturel.
Alors comment vous l'envisagez, ce lieu ?
Comment on l'envisage, Nathalie, ce lieu ? Comment on l'a envisagé ? Alors, il faut expliquer un petit peu. On a travaillé pendant 2 ans avec Nathalie sur la création d'un tiers-lieu à Brissac, qui ne verra pas le jour. Mais on l'avait envisagé voilà, avec à la fois des agriculteurs. Donc, nous, on était partis sur le maraîchage parce qu'il y avait aussi la dimension circuit court en fait, qui était importante pour nous. Donc, de pouvoir avoir un restaurant en fait, qui transforme les produits directement sur place et avec une boutique aussi paysanne. On l'avait imaginé comment, sinon, avec un outil agricole mutualisé aussi, si tu veux en dire deux mots.
C'était venu comme ça aussi, à force de réfléchir et de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire de ces plus de 600 mètres carrés de bâti. La priorité, c'était d'installer des agriculteurs, quoi, et notamment en élevage et en production nourricière. Et après, du coup, avec d'autres pôles, en fait, qui permettaient de faire plus que de l'agriculture, mais de la maintenir, en fait, et de la rendre plus que viable, vivable, en fait, en n'étant pas isolée dans nos exploitations, mais en étant aussi en contact avec des axes pédagogiques, culturels, artistiques. Donc, il était question d'une salle de cinéma rurale, il était question, oui, d'un outil de transfo, par ailleurs, sur les produits agricoles, et de mettre tout ça en synergie. Il pouvait être aussi question de musique et d'accueil de petite enfance, aussi. Parce que la culture, l'art et la nourriture, c'est aussi porteur pour pas mal de monde, quoi. Et que je pense qu'on espérait convaincre qu'on puisse gagner, en fait, et les agriculteurs et le reste du monde en général à vivre aussi ensemble sur les mêmes lieux. En fait, même à petite échelle. Et du coup, nous, on attendait beaucoup dans la perspective d'en faire un outil public transmissible. On attendait beaucoup de l'engagement des collectivités dans ce projet. Et elles ont été plutôt frileuses et plutôt pas engagées. Voilà. Et du coup, ça a manqué, en fait.
C'est l'argent, concrètement, du coup, si je comprends bien, qui a été le point manquant de...
Oui, parce que le marché foncier, parce que les projets divers et variés, il y a plein de projets qui peuvent être intéressants sur un ancien lieu agricole, en fait, en ruine. Et pour lequel il y a beaucoup, beaucoup à faire. Il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes. Nous, voilà, on donnait la priorité, en fait, à l'aspect nourricier et à tout ce qui pouvait tourner autour, parce qu'il nous semble qu'aujourd'hui, c'est un enjeu hyper fort, en fait, de maintenir l'usage nourricier des terres qui peuvent l'être. Parce qu'on en manque cruellement et que pour l'instant, on ne se pose pas trop la question en tant que les supermarchés sont pleins. Mais voilà, c'est bien aussi de savoir produire sur son village, sur ses terres, utiliser au maximum quoi, pour ça.
Toi, en tant qu'éleveuse, concrètement, ça apporte quoi justement ? Ça apporterait quoi d'être dans cette structure-là par rapport au travail que tu vis déjà au quotidien ? Tu parlais d'isolement. Mais concrètement, tu maintiens une activité de la même forme, on va dire, peut-être juridique, ou en tout cas, c'est des personnes qui travaillent à côté les uns des autres. C'est un peu ça l'idée d'un tiers-lieu pour ce qui est en tout cas de la partie, par exemple, agricole ou culturelle.
Mais ça peut prendre différentes formes. Nous, on avait imaginé une coopérative, dans laquelle chacun a son activité, mais on mutualise des moyens matériels, humains et... Et on avance en présence, quoi, en emboîtant les activités les unes avec les autres.
Mais c'est vrai qu'il y avait vraiment l'aspect mutualisation du temps de travail aussi, sur des questions de remplacement ou ce genre de choses. Enfin, juste pour l'anecdote, il y a un éleveur qui devait venir vendre son fromage de brebis aujourd'hui sur le marché, qui n'a pas pu venir parce que du coup, la personne qui devait le remplacer sur la ferme pour qu'il puisse venir faire le marché s'est désistée. Et du coup, c'était assez complexe en fait, de trouver quelqu'un. Et c'est vrai que d'être plusieurs sur le lieu, ça peut quand même permettre ce genre de choses. Quoi.
La solidarité, des coups de main déjà. Ouais. Et pour rester sur pour l'instant, cet aspect un peu négatif là, que ça a pas pris pour le coup. Concrètement, on est accompagné comment quand on veut monter un lieu comme ça ? Parce qu'on a l'impression que c'est quand même un terme qu'on voit fleurir partout. Donc on se dit, ça veut dire qu'il y a peut-être des politiques derrière. Je sais pas, une reconnaissance. En tout cas, au niveau public, il y a l'air d'en avoir une. Mais du coup, il n'y a pas forcément, c'est pas facile de lever des fonds.
Non, mais alors la complexité avec le projet qu'on portait, donc on avait nommé domaine nourricier, c'était aussi. Il y a le foncier, il y a aussi le cœur du projet qui est de mixer des activités qui ont des besoins différents en fait. C'est pas les mêmes besoins pour installer un maraîcher que pour installer une éleveuse, que pour installer un cinéma. Du coup, ce lieu se prêtait en fait, à ça. Mais la recherche de lieu là-dessus, elle est complexe. Et ensuite, le fait que ce soit très... La dimension tiers-lieu dans le fait qu'il y ait des axes très différents, ça fait que la lisibilité auprès des institutionnels n'est pas facile, en fait. Parce que, clairement, nous, Bobine et Binette, on nous dit « Mais vous faites à la fois un côté agricole, à la fois un côté culturel, mais vous êtes ni l'un ni l'autre, et l'un et l'autre. » Donc, en fait, on n'a pas de case. Donc ça, c'est un petit peu compliqué.
Ça multiplie les démarches administratives, sectionner le dossier en plusieurs petits bouts, c'est ça, le saucissonner.
Ouais.
Du coup, un petit bout, tel ministère, tel machin.
Ouais.
Il n'y a pas moyen d'avoir un interlocuteur.
Après,
pour tout
aujourd'hui, en tout cas en Occitanie, il n'y a plus de labellisation tiers-lieu. Donc, il n'y a plus cette chose-là. Donc, Après, c'est les gens qui décrètent en fait, de faire tiers-lieu ou pas. Donc, faire tiers-lieu, c'est avoir plusieurs choses au même endroit qui, a priori, ne seraient pas forcément compatibles. Mais en fait, on trouve de la compatibilité partout. Hein. Faire tiers-lieu, c'est avoir plusieurs activités au même endroit. Et qu'il y ait de la mutualisation et de la coopération entre ces activités.
On va continuer cette discussion après un premier petit morceau de musique. Et j'en profite pour dire au public qui est là aussi qu'on a un micro avec un long câble. Et donc éventuellement plus tard aussi dans l'émission, si vous avez envie d'apporter des expériences, c'est tout à fait bienvenu. On se retrouve juste après ça.
Pique, cali, pique.
la Mal Coiffée avec le morceau Bim Bam pour nous accompagner sur ce plateau en direct et en extérieur depuis Saint-Jean-de-Buège sur la piste, une petite place qui est construite sur la rivière et sous de beaux platanes. Donc on passe entre les gouttes en plus en ce moment. On est donc toujours sur les deuxièmes rencontres agriculturelles en Buège, organisé avec l'association Bobine et Binette, et ça dure encore tout l'après-midi, toute la soirée. Le méchoui est en train de cuire gentiment, il sera prêt normalement, je sais pas, vers 19h.
20h plutôt.
20h, voilà. Heures. En tout cas, ça vaut le coup de monter. Rejoignez-nous. Pour l'instant, nous sommes donc toujours en plateau et en direct pour discuter de cette thématique de l'engagement des agriculteurs vers les territoires, dans l'environnement. On a commencé à parler des tiers-lieux et on va continuer à avoir d'autres formes que peuvent prendre aussi justement ces formes, pas mal de pastoralisme, puisqu'on parle beaucoup de moutons et de chèvres. Avec Étienne et Patrick, vous êtes tous les deux sur des fermes plutôt vers l'Arzac, on le disait. Étienne, tu veux nous parler du lieu où tu vis ?
Oui, du coup, c'est une ferme d'élevage ovin-viande sur laquelle je travaille avec deux autres associés dans un collectif de travail agricole pour le coup, mais là aussi intéressé du coup à participer à la vie du territoire de différentes manières, et le culturel en fait partie, ou en organisant aussi des événements militants. Nous, on travaille sur l'organisation de fêtes sur la ferme qui permettent à différents artistes locaux de se produire. Et là, cette année, du coup, du 3 au 6 août, sur l'organisation aussi d'un festival à l'échelle du Larzac qui s'appelle Les Résistantes. Un festival autour de la convergence des luttes sociales et écologiques. Donc c'est assez important pour nous et c'est quelque chose qui est assez imprimé dans le projet qu'on a autour de cette ferme, que d'être une ferme qui participe au sein d'un territoire à construire du collectif. Et c'est dans cette même démarche que l'année passée, du coup, on a participé au niveau de la région Occitanie au projet agricole qui regroupait différents collectifs agricoles ou agriculturels à l'échelle de la région, qui, pour partager nos dynamiques, partager aussi les problématiques qu'on rencontre, qui étaient évoquées précédemment quand on essaye de monter ce type de projet, à la fois en termes d'accompagnement de la part des collectivités, à la fois en termes de statut juridique et des encadrements légaux qu'on a. Du coup, on se balade entre tout ça. Voilà.
C'est quoi la forme, rapidement, sans forcément rentrer trop dans les détails, mais une ferme collective, du coup, comment ça se monte ?
Eh ben, on jongle un peu avec l'existant de ce qu'on a pu voir sur le projet agricole. On a vraiment des fermes qui sont sur la typologie des sociétés agricoles classiques. Donc on va avoir des SCEA, d'autres acronymes divers et variés comme les GAEC ou autres, qui vont jusqu'à des formes coopératives ou des formes associatives aussi. Donc selon ce qui est et ce qu'on observait sur les différents collectifs à l'échelle de l'Occitanie, c'est que tout le monde se trouve un peu avec des cotes mal taillées sur les statuts existants au niveau légal pour faire de l'agriculturel.
Patrick, je te vois aussi opiner. Enfin, tout le monde opine autour de la table. Hein. De toute façon, là, on a touché un point sensible. Toi, tu peux nous dire déjà rapidement où tu travailles ?
Alors, pour ma part, je suis aussi sur une ferme collective, mais plutôt sur un collectif qui se résume au couple. Par contre, on est investi dans un collectif qui est beaucoup plus large, puisqu'on est sur, avec ma compagne Mathilde, on est sur une ferme qui est donc sur le Larzac, mais sur la partie collectif du Larzac, donc la partie historique de la lutte. Et on est sur une ferme qui est sur les deux tiers sur la Société Civile des Terres du Larzac et un tiers sur la SCGFA Larzac. Donc on hérite là des deux pentes de la lutte du Larzac, avec donc la première partie gérée par la SCTL, qui est la partie qui avait été acquise par l'État pour l'agrandissement du camp militaire. Et la SCGFA, c'est toute la partie qui a été acquise par les citoyens pour contrer l'accès aux fonciers par l'État pour l'agrandissement du camp. Et tout ce dont on parle depuis tout à l'heure à propos du tiers-lieu, ça fait écho, puisque pour moi, sans l'avoir identifié comme un tiers-lieu, le Larzac, ou en tout cas cet espace collectif, on est de fait un tiers-lieu dans le sens où, effectivement, on a tout un tas d'activités extrêmement complémentaires, très diverses et très complémentaires, qui vont de l'agricole avec des coopératives laitières qui ont été montées, je pense au Berger du Larzac, notamment avec les fermes issues de ce territoire-là, jusqu'à des collectifs vraiment culturels. On a sur le territoire, dans les personnes qui sont locataires ou en tout cas usagers du collectif, on a aussi plusieurs groupes d'artistes, que ce soit des circassiens, des chanteurs, des clowns, tout un tas d'activités, mais aussi on a des couvreurs qui vont permettre de réparer les toits des fermes du collectif, on a des ateliers de découpe, des ateliers de pour la vente, pour aller faire les marchés, etc. Enfin, des boutiques paysannes avec notamment les gens du collectif, et c'est quelque chose qui s'est construit sur plusieurs dizaines d'années, tout ça.
Et au niveau de votre ferme, à toi et ta compagne, donc vous travaillez sur le mouton, la chèvre, tu le disais, et de A à Z, avec notamment un gros axe sur la laine, c'est ça ?
Oui, on est venus tous les deux à cette activité agricole par recherche de cohérence dans notre activité, et ça passait notamment par la valorisation de tout ce que nous propose le troupeau. Déjà, le fait d'avoir un troupeau mixte ovin-caprin, c'est pas forcément courant, mais pour nous c'est aussi cohérent de pouvoir mêler ces deux espèces, que ce soit pour la valorisation des parcours ou même pour la valorisation de ce que nous permet de produire le troupeau. On peut produire du lait de chèvre sur des parcours maigres où ça aurait été un petit peu plus difficile pour la valorisation laitière en brebis. Bon, ben là, on a effectivement un tiers de caprin, deux tiers d'ovin, et on va valoriser viande sur les deux espèces, le cuir sur les deux espèces, la laine et le lait sur une partie des caprins.
Étienne, juste, j'avais une question pour réagir sur l'engagement. Est-ce qu'on sent qu'il y a vraiment des idées quand même derrière tous ces projets, des idées, on peut le dire, politiques. Vous, votre ferme, elle s'est montée comment ? Vous êtes issu de ce coin-là, de ce milieu-là, ou c'est
comme pas mal de collectifs agricoles qui se reconnaissent comme tels actuellement, nous, on est tous les trois orcades familiaux. Donc, c'est le terme consacré en agriculture. Ça veut dire que nos parents n'étaient pas dans la profession. Et du coup, c'est vraiment un choix de s'être déplacé vers cette activité et de vouloir la mener. C'est pas les projets d'installation souvent qui sont les plus évidents. Là aussi pour des questions de trouver des fonciers disponibles, et aussi parce qu'on se place dans un cadre dans lequel, dans le monde agricole, la transmission familiale reste ultra majoritaire actuellement, et elle est imprimée, j'ai envie de dire, psychologiquement et sociologiquement, de choses assez fortes pour les gens qui sont paysannes et paysans aujourd'hui, que de transmettre son patrimoine agricole à ses enfants, c'est quelque chose de très important. Du coup, préparer, organiser des transmissions hors cadre familial, c'est un travail conséquent qui est fait aujourd'hui par des structures, notamment les ADR un peu partout en France, qui sont des organes d'accompagnement technique qui sont liés à la Confédération Paysanne. Et du coup, on a du succès, mais c'est des projets qui sont complexes, qui sont très complexes sur le plan humain et qui demandent cet accompagnement humain des paysannes et des paysans qui transmettent, mais aussi des personnes qui viennent pour s'installer et monter ce type de projet.
Bon, puisqu'on parle d'accompagnement, Julie, je crois que tu as quelque chose, certainement des expériences à nous partager. Toi, c'est précisément ton activité maintenant, d'essayer d'accompagner, de former les gens qui veulent travailler en collectif, pas forcément la partie administrative, mais aussi trouver de la ressource, parce qu'on n'a pas forcément cette capacité aujourd'hui de savoir comment travailler en collectif.
Oui, alors pas du tout sur le côté administratif, en effet, mais plutôt sur le côté humain. Et moi, j'ai fait partie d'un projet aussi collectif agricole pendant 3 ans, dès le début, et sur Montpellier, la ferme urbaine collective de la Condamine. Du coup, nous, on a eu la chance, entre guillemets, de répondre à un appel à projet de la métropole et d'être sur des terres agricoles de la métropole, et du coup, de pallier ce que tu viens de nous partager sur la difficulté d'accès à la terre, qui est très, très réelle. Et donc, c'est un projet aussi où il y a du culturel, de l'accueil pédagogique, etc. Et du coup, moi, cette expérience-là m'a permis aussi de me rendre compte à quel point, aussi, c'est ce qui vient d'être partagé, c'était nécessaire d'être accompagné, en fait, dès le début et même en amont, en fait, avant l'installation même. Parce que faire collectif, on n'a pas l'habitude. On n'est pas trop dans une société où on nous apprend à faire ensemble et encore moins à travailler de manière totalement horizontale, en fait. On est beaucoup dans le monde du travail habitué à écouter un ou une chef, plutôt un chef qui nous dit quoi faire. Et donc, c'est toutes des méthodes de travail qu'il faut réapprendre et être accompagné là-dessus parce que ça ne s'invente pas.
Et ces outils, du coup, ils viennent d'où ? Les outils que tu utilises et que tu proposes ou si tu peux nous en parler un peu, qu'on se fasse une idée à quoi ça peut ressembler, justement.
Déjà, moi, je me base sur l'expérience, c'est-à-dire que je ne me verrais pas accompagner des collectifs si moi-même, je n'étais pas, pas passée par des collectifs, que je n'étais pas allée rencontrer des collectifs. Donc, j'ai fait le compagnonnage repas, c'est réseau d'échange des pratiques alternatives et solidaires, qui permet pendant plusieurs mois d'aller rencontrer des collectifs autogérés, des fermes, mais pas que. Et du coup, c'est déjà de découvrir eux comment ils fonctionnent qui, moi, m'a permis de... Alors, aucun collectif que j'ai rencontré ne prétend avoir la recette magique et savoir comment faire, en fait. Ça n'existe pas. Et après, donc, je me suis aussi formée dans mes expériences collectives et j'ai suivi aussi des formations autour d'outils d'intelligence collective. Donc, je ne sais pas si je peux donner des exemples, mais il y a des outils pour comment on prend des décisions ensemble, des outils pour... réfléchir à quelle vision on a du projet, comment on veut parler d'argent aussi. L'argent, c'est souvent une question un peu complexe dans les collectifs et dans la vie de manière globale. Donc voilà, il y a plein d'outils. Et le principe, c'est que c'est le collectif qui a les bonnes réponses aussi. Et du coup, moi, mon rôle, c'est de les accompagner à réfléchir ensemble et à trouver les outils et leur fonctionnement qui leur convient.
Etienne, tu aurais quelque chose à nous partager sur votre expérience à vous, justement ?
Oui, juste après, au-delà des outils, ce que je retrouve sur ce que tu décris dans la démarche, pour moi, c'est la démarche de l'éducation populaire, c'est d'aller se rencontrer, du coup, entre personnes. Personne ne se revendique aujourd'hui comme sachant dans les collectifs agricoles, agriculturels. On se rencontre les uns les autres et on construit nos outils, on fait voyager ces outils entre nous, à travers les médiateurs, que sont les personnes qui font l'accompagnement notamment. Et moi, cette construction, en tout cas sur le plan humain, de comment on travaille ensemble, elle se fait vraiment comme un voyage qu'on fait à plusieurs et sur laquelle on trouve nos outils. On va voir d'autres gens. Là, c'était super au niveau du projet agricole, ces opportunités de rencontre avec d'autres collectifs agricoles pour voir comment les gens fonctionnent. On échange beaucoup et il y a des choses qui se passent comme ça des uns aux autres sur trouver un peu des manières de fonctionnement qui vont... et qui sont profondément liés aux humaines et aux humains qui composent en fait le collectif. Quand on a un changement d'associé, une personne qui sort, une personne qui rentre, on rebat à nouveau toutes les cartes du fonctionnement. Donc c'est très adaptatif et c'est très stimulant d'avoir ce travail-là intellectuellement sur nos fermes, en plus de plein d'autres aspects plus techniques qui sont très stimulants aussi.
C'est ça que j'allais dire, c'est que ça a l'air d'être presque la moitié du boulot, à part évidemment l'activité en elle-même, mais... de monter le projet, de le faire vivre sans qu'il explose, peut-être, c'est déjà ça m'a l'air d'être un défi assez passionnant, assez fou.
Oui, ça demande beaucoup de temps et des fois, l'agriculture, ça prend du temps aussi. Et des fois, on a un peu de mal à consacrer ce temps nécessaire à faire entretenir et faire de l'agriculture de groupe aussi. Mais c'est nécessaire, oui, tout à fait. Ouais.
Ce que je trouve intéressant, c'est que pour vivre en collectif, ça demande du temps, ça demande des efforts. L'agriculture demande du temps aussi. Donc pour arriver à faire collectif sur une activité agricole, il faut être plus nombreux. Et ça, c'est intéressant. Je voudrais illustrer aussi ce que vous disiez par rapport au fait de rebattre les cartes, ce que tu disais, Étienne. Si je reprends l'exemple du collectif SETL-GFA sur le Larzac, du collectif Larzac, ça fait depuis les années 80 que ça existe. Effectivement, les cartes doivent être rebattues régulièrement. Et on doit réinterroger, non sans mal, surtout dans les collectifs qui sont assez anciens et qui tournent depuis longtemps. Mais effectivement, la philosophie, la politique, le fonctionnement peut évoluer aussi. Mais c'est la force des collectifs d'arriver à accepter ce changement-là.
Et à vous écouter, que ce soit donc sur l'apprentissage déjà des métiers, mais aussi sur ces outils-là, sur l'administratif, j'ai l'impression qu'il y a ça passe beaucoup par des réseaux, alors que ça soit des réseaux institutionnels, effectivement, par rapport à la forme à tiers-lieu, les réseaux sur les pratiques collectives ou sur les pratiques agricoles. Sans ça, en fait, la transmission de savoir, elle ne serait pas possible. C'est quelque chose que vous avez tous et toutes expérimenté, d'aller justement voir ce qui se passe et de revenir avec un peu les batteries rechargées, parce que des fois, ça peut être épuisant de tirer tout ça.
Oui, je crois que la première chose à faire, c'est d'aller voir les lieux. Il y a plein de lieux en fait qui vont nous inspirer pour telle ou telle raison d'aller sur place, voilà, et de voir ce qui se passe. Moi, j'avais envie d'apprendre le tri. Je suis allée chez Patrick lors d'un chantier de tonte. Enfin voilà, d'aller vers ce vers quoi, voilà. Donc aller visiter les lieux, prendre contact avec les gens. Des fois, on a peur, c'est pas facile, mais voilà, c'est ça qui nous fait avancer, quoi.
Et bon, c'est peut-être aussi une caricature, mais on voit souvent les lueurs comme quelqu'un qui aime bien être un peu seul. Et du coup, est-ce que c'est évident d'arriver à se fédérer, à aller voir les pratiques des uns des autres ? Je ne sais pas, Nathalie, peut-être comment toi, tu as dans ta carrière, dans ta vie en tout cas d'éleveuse, est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été présent, ce fait de faire du lien, de mettre du sens, ou c'est avec l'histoire du tiers-lieu que ça s'est... C'était un besoin qui s'est concrétisé ?
Non, bah, y a plein de... Enfin, moi, depuis le début de mon activité, il y a eu presque 8 ans maintenant. Certes, au quotidien, je suis toute seule, je travaille plutôt toute seule, mais le maintien de mon activité dépend de plein de collectifs différents, que ce soit l'association des éleveurs de brebis des trois races... Que ce soit l'abattoir, que ce soit Rayolen quand on valorisait la laine, enfin les chantiers aussi sur lesquels j'ai appris quoi, c'était aussi avec mes collègues, c'est des collectifs des fois informels, enfin d'autres fois c'est plus cadré, enfin on a tous besoin les uns des autres en fait comme dans la vie en général quoi, mais c'est compliqué, oui, parce que ce sont des activités hyper prenantes et que c'est les temps de disponibilité en fait qui sont compliqués à gérer. Enfin, pour moi, c'est le plus compliqué à gérer en fait. C'est pas le fait de devoir faire avec d'autres, c'est plus de comment on s'organise pour à la fois subvenir aux besoins de son troupeau et puis essayer de vivre à côté, quoi. Et que ce soit avec ses collègues et en dehors aussi.
Et c'est une autre question. Le lot de pendant, c'est les rentrées, quoi. Quand on fait ces métiers, il y a souvent une valorisation financière. Est-ce qu'on arrive à justement jongler entre les deux quand on fait de l'élevage ou de l'activité agricole en collectif ? Est-ce qu'on arrive à financer le projet ou est-ce qu'on laisse ça de côté parce que ce qu'on gagne en collectif, ça en vaut la chandelle ? Sur les modèles que vous avez pu chacun expérimenter, comment est-ce que vous mettriez cette balance-là ?
Ben, pour le coup, on retombe sur la question d'autres collectifs, puisqu'en fait, ce qui permet du coup de faire des rentrées, de générer des rentrées, pour nous, en tout cas sur la ferme du Contrevent, c'est de travailler avec des collectifs de consommateurs qui s'organisent en fait pour aller chercher de l'alimentation locale entre eux et pour nous faciliter les possibilités de vente. Mais il y a des collectifs de consommateurs, il y a aussi des collectifs de producteurs qui s'organisent entre eux autour des démarches de boutiques de producteurs. Mais c'est vrai que là encore, en fait, ce qui permet de pouvoir gérer ça, surtout dans des cadres de temps qui sont, dans des journées à rallonge, c'est qu'il y a une partie de la démarche qui se fasse aussi de côté d'autres collectifs avec lesquels on est en lien au niveau de groupements d'achat ou de supermarchés coopératifs ou d'autres initiatives comme celle-ci.
Et vous, c'est viable du coup économiquement votre projet ?
Oui, alors là, on a, en parlant du coup des ventes et des collectifs de consommateurs, on a parlé que de 50% de la question pour mon cas, puisque le 50% restant, c'est la politique agricole commune. Donc là, on est sur... des financements qui sont attribués aux éleveurs en échange de services écosystémiques, mais aussi sur des références historiques de surface. Donc c'est un peu complexe, mais qui sont très inégalitaires. Donc en fait, on joue un peu à... C'est les surfaces dont les éleveurs disposent sont quelque chose qui participe de manière importante aux revenus. Ce qui est plutôt un problème aujourd'hui, puisque quand on parlait de difficultés d'accès au foncier pour des nouvelles personnes qui souhaitent s'installer, ça vient de là, puisqu'on est plus dans une démarche d'agrandissement des fermes pour avoir de la captation, notamment de ces subventions. Mais clairement, donc, pour pas trop digresser là-dessus, Nous, on arrive à avoir un fonctionnement correct en étant sur ces différents tableaux, donc les tableaux à la fois les ventes, les services écosystémiques qui sont rendus et sur les paysages et les parties de subvention. Voilà.
Donc vous arrivez tous à avoir à peu près des salaires
pour être oui. Oui, on a le salaire mensuel.
Donc, quand on dit ferme collective, on pourrait imaginer aussi que du coup tout va dans le collectif, mais là vous avez quand même réussi à dégager des activités, des.
Oui. Après, c'est vrai qu'on a, là aussi des fonctionnements très différents en fonction des structures ou des collectifs qu'on a pu rencontrer sur ce qui est mutualisé ou pas. Je crois que ça dépend des lieux et de la pertinence de ce qui est partagé en termes de bâti entre les gens. Des fois, on a des collectifs où il y a une partie effectivement des recettes de l'activité agricole qui sert à financer du commun. D'autres dans lesquels, à l'instar de notre cas, c'est plus distribué, quoi, de manière individuelle.
Patrick, comment ça se passe chez toi, chez vous ?
Tout dépend où est-ce qu'on situe le collectif. Là, la plupart des tiers-lieux dont on parle ou des activités dont on parle jusqu'à présent, c'est le collectif se situe très très proche de l'activité productrice, génératrice de revenus. Là, si on prend l'exemple du Larzac, le collectif se trouve à un niveau au-dessus et chaque ferme sont des fermes individuelles ou sous forme sociétaire, donc des GAEC, souvent des GAEC familiaux, mais pas que. Mais l'activité génératrice de revenus va être assez dissociée du collectif en termes de production. Et ce n'est pas pour ça que le collectif ne va pas être actif, mais là, de manière dissociée de l'activité productrice. Mais ce collectif va permettre, par la structuration du foncier, par la mise à disposition d'outils, va quand même soutenir tout ça. Il y avait une autre chose sur laquelle je voulais revenir. On parle beaucoup de foncier depuis tout à l'heure. C'est un petit peu une base pour le support de nos activités agricoles. C'était juste un petit retour d'expérience sur le démarrage d'activité. Pour ma part, l'activité que j'ai montée dans une recherche de cohérence sur le territoire m'a poussé à avoir une activité de berger sans terre. Et pendant plusieurs années, c'était une activité où il n'y avait aucune maîtrise foncière. Ce qui n'a pas.
Ça veut dire, ce que tu peux préciser, ce que tu entends par là.
C'est-à-dire, on faisait manger le troupeau sur de l'herbe. On faisait manger de l'herbe et de la feuille, enfin de la ressource pastorale, alors que je n'avais ni la propriété, ni le fermage, ni de convention de pâturage, et je n'avais quasiment que des accords oraux, systématiquement des accords. Mais quasiment que des accords oraux et des accords précaires. Ce qui n'a pas empêché d'avoir une activité génératrice de revenus, ce qui n'a pas empêché d'être engagé sur différents collectifs, que ce soit comme ce qu'a évoqué Nathalie tout à l'heure, le montage d'une démarche collective sur la laine, donc on a évoqué Rayolen, ou beaucoup d'autres démarches collectives sur lesquelles on était engagé. Mais le foncier, on parle souvent du foncier en disant la terre, et en fait la terre, c'est pas le foncier. Et quand on me demande aujourd'hui tu as combien de terres, je dis en mètres cubes. C'est pas en fait ce terme de terre est un terme générique qui porte souvent à confusion, puisqu'en fonction de si on le regarde de manière matérielle, si on le regarde de manière administrative, réglementaire, et encore sur le réglementaire ou l'administratif, si on le regarde du point de vue des impôts ou si on le regarde du point de vue des aides européennes, ce même mot terre a des significations extrêmement différentes et qui va prêter à confusion et qui va amener à des incohérences en fait dans l'appréciation du métier. Et ça c'est quelque chose qui est assez intéressant.
Bon, tu veux intervenir, Julie ? Non ?
Je voulais, oui. Non, mais je voulais la question de la rémunération, je voulais l'aborder parce que là, c'est vrai que du coup, on est plutôt entouré d'éleveurs et d'éleveuses. Et alors, je ne saurais pas dire exactement là, à la Condamine où ils en sont. Je sais qu'ils ont un petit salaire complété par le RSA, il me semble. Moi, ça a été une des nombreuses raisons qui m'a fait partir de ce projet. Il n'y a pas les subventions sur du maraîchage comme sur l'élevage. Et très clairement, c'est des métiers, en tout cas ce métier-là de maraîcher, de maraîchère, qui est peu porteur de revenus. que ça soit seul ou à plusieurs. Hein. Moi, après la ferme, j'ai travaillé dans un supermarché coopératif à Montpellier, à la Cagette, et du coup, j'étais responsable du rayon fruits et légumes, du coup, en lien avec des maraîchers et des maraîchères, et que ça soit en collectif ou seul, voilà, il y a... En tout cas, à l'échelle à laquelle, je pense, nous, on le pratique, l'agriculture, c'est peu source de revenus. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est aussi pour ça que des projets collectifs se montent, je pense. En tout cas, nous, à la Condamine, c'est comme ça aussi qu'on l'avait imaginé, parce que plusieurs activités permettent de diversifier les revenus et il y a des activités qui sont plus rentables. Et par exemple, nous, sur l'accueil pédagogique et les événements culturels, eh ben, c'était plus rentable que sur le maraîchage et ça venait un peu compléter et équilibrer un petit peu tout ça. Donc c'est pour moi la dimension collective, elle est aussi liée à ça, à cette question là.
On va continuer à parler de tout ça, des liens qu'il peut y avoir entre ces activités et puis le reste du monde après une petite pause musicale, le temps de laisser passer les trois gouttes qui nous tombent dessus.
Anoche salió la luna nueva y se ha de concederme lo que le pedí. Nunca habrá en el mundo nadie más feliz. Ay, lunita nueva, deja que sea así. Ay, lunita nueva, deja que sea así. Le dije a la luna cuánto yo te quiero, le pedí lo mismo de ti. Le pedí riquezas, mansiones enormes, pero todo eso, todo para ti. Ay, lunita nueva, deja que sea así. Ay, lunita nueva, deja que sea así. Le dije a la luna lo infeliz que era cuando en otros brazos te soñaba yo. Y la luna nueva pareció decirme que no lo creyera, que eso era mentira, que todas tus gracias, todas tus caricias y todas tus cosas eran para mí. Lunita nueva, deja que sea así. Ay, lunita nueva, deja que sea así. Deja que sea así.
C'était Chinanapun, le morceau Lunita Nueva, c'est ça Fabien ? Ouais, j'ai une bonne mémoire. Voilà, vous n'avez rien vu, mais pendant ce morceau de musique, on a déplacé toute la table, les micros, les casques, sous le barnum. On est bien serré au chaud à côté du Fabien en technique. Et le public, lui, sous la pluie, qui nous regarde avec des grands sourires. Ils sont à l'abri un peu sous les platanes. Ça a l'air de marcher plus ou moins. Voilà, parce que la pluie forcée un petit peu. Mais du coup, après, une fois qu'il aura plu ces quelques gouttes, il pleuvra plus. Et puis le reste de l'après-midi se passera sous un grand soleil radieux à Saint-Jean-de-Bèche.
Après, il ne pleut plus. C'est fini. Voilà.
Donc, venez,
enfin, non, c'est pas fini parce qu'on a quand même sacrément besoin de pluie, n'est-ce pas ?
Donc, ouais, on est très contents. Là avec les agriculteurs
on est très,
autour de
très,
nous.
Très contents d'avoir de la pluie. C'est juste que demain, ça aurait été mieux. Mais bon, c'est pas grave.
Je pense que c'est un signe. Je pense que c'est un très bon présage pour la suite de tous ces projets-là. Voilà. Comme on le disait, on va sauver le monde, hein, c'est ça ? Avec trois gouttes dans quatre assiettes, voilà. Et ben justement, pour aborder cette dernière partie de l'émission, j'aurais aimé, on s'est dit qu'on parlerait un peu de projets qui marchent bien. On voulait parler du réseau LEN, dont qu'on a évoqué au cours des discussions un petit peu. Déjà, comme exemple, là, c'est à l'échelle européenne, je crois que ça se passe. C'est ça, Patrick ?
Il existe un réseau européen autour de la laine, effectivement, qui réunit tout un tas d'acteurs, que ce soit des amateurs jusqu'à des professionnels industriels, sur toute la filière, des éleveurs jusqu'aux transformateurs finaux. Donc il y a des tisserands, il y a des laveurs de laine, et puis des tisserands sur des petits métiers à bras jusqu'à des tissages industriels en Belgique. Donc on a des membres qui sont Angleterre, France, Espagne, Portugal, Italie, Belgique, Suisse, enfin j'en oublie encore, excusez-moi, Allemagne aussi. Donc ça, c'est un atelier qui est né dans les années 80 suite à la fermeture de la part de l'État des derniers pôles lainiers, puisque jusque dans les années 80, quasiment tous les départements français avaient leur centre de tri. Et c'est toute l'activité laine industrielle a complètement périclité dans les années 80-90. Et les différents acteurs se sont rassemblés dans le cadre de ce réseau qui s'appelle Réseau Atelier Laine d'Europe. Voilà. Après, donc ça n'a pas freiné la périclitation de l'activité lainière industrielle. Par contre, on voit ces dernières années de plus en plus de petites démarches locales, des démarches de territoire, qui sont souvent à l'initiative d'éleveurs ou de transformateurs, des démarches qui naissent un petit peu partout en Europe et qui s'appuient très fortement sur ce réseau que constitue Atelier Laine d'Europe, puisqu'on se retrouve au moins une fois par an sur des rencontres européennes qu'on a organisées nous cette année sur le Larzac. Où il y a eu une affluence assez importante. On a dû refuser du monde. Donc on va réorganiser quelque chose au printemps pour les acteurs de l'Aveyron et des quelques territoires autour. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse autopromo. voilà, après, dans les démarches, il y en a de toute taille et avec différentes organisations associatives, informelles, SCOP, voilà, c'est...
Et ce réseau donc qui permet de se connaître, de transmettre des savoirs, des techniques, etc., mais aussi pour la diffusion, enfin pour concrètement le marché, après pour vendre ses produits par exemple, parce que la laine c'est quand même la manufacture, où ça reste sur des échelles locales, mais le réseau européen il est là pour soutenir tout ça.
Alors, le réseau européen, il est vraiment là pour faire du lien. Après, il y a une charte qui a été définie dans les années 89. J'en ai un extrait sous les yeux. C'est une charte à laquelle tous les adhérents s'engagent à... Enfin, que tous les adhérents s'engagent à respecter. Et c'est notamment... alors, je peux en lire quelques extraits. C'est utiliser une matière première locale avec une sélection rigoureuse et la garantie de son origine. Donc, c'est tous les aspects traçabilité qui, contrairement à l'industrie, n'est pas très présente, en tout cas dans l'industrie, contribuent à la maîtrise complète de la filière. production, transformation, commercialisation, c'est-à-dire être garant de cette traçabilité et de la connaissance, enfin, continuer à faire le lien, de garantir le lien entre les différentes étapes. Constituer un réseau d'entraide à tous les niveaux, que ce soit au niveau formation, achat de matériel, participation aux foires, salons, congrès. Donc, si tu veux, ça répond un petit peu à la question que tu viens de poser par rapport à la commercialisation. Mais c'est vraiment de l'entraide. Et, c'est inciter à communiquer, à se donner les bons plans, etc. Aucune personne participant à la transformation d'un produit de Atelier Laine d'Europe ne doit subir une quelconque exploitation. Donc ça, c'est en réponse à notamment l'exploitation des minorités ou des enfants ou voilà, dans les pays tiers dans l'industrie textile. Promouvoir les produits par un label de qualité garantissant l'origine précise des matières, les lieux de transformation et les méthodes de travail. Donc on s'engage à communiquer autour des valeurs de l'atelier et encourager et développer les démarches et les méthodes respectueuses de l'animal et de l'environnement. Donc là, enfin voilà, ça parle de... ce dernier point parle de lui-même.
Ouais. Tous ces points qui sont des points, on l'entend, assez éthiques, c'est un peu ces valeurs-là aussi que les projets dont on a parlé depuis presque une heure maintenant, c'est ces valeurs-là aussi qui sont produites par ces projets, j'ai envie de dire, au-delà de, des productions matérielles. C'est comme ça que vous les voyez, vous, ces démarches et quel impact elles peuvent avoir vers le reste du monde, justement. La ville, par exemple, on a parlé des liens entre la campagne et la ville. Il y a beaucoup de gens qui sont complètement déconnectés de cette réalité-là, à travers peut-être ces petits réseaux. C'est une manière de remettre un peu le fil. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de...
Oui, je crois qu'on est dans
Étienne.
Dans une logique du système capitaliste où on dépouille beaucoup de métiers aujourd'hui de leur sens. Et forcément, quand on est dans ces démarches de se réinstaller en collectif, dans des collectifs agricoles et culturels, c'est pour se redonner du sens, c'est pour se réapproprier cette liberté-là qui est de donner du sens à nos vies ensemble. Et on se rend compte que pour ça, effectivement, le collectif est un bon outil qui permet de trouver, d'agir en commun. Mais ça a toujours été le cas des démarches qui s'opposent à ce système. C'est forcément des démarches collectives, c'est forcément du faire ensemble, avec toute la complexité que ça implique. Mais c'est évidemment le type de démarche qui est nécessaire pour retrouver du sens. Sinon, on se fait piéger.
Julie, c'est aussi ce genre d'attente que tu rencontres chez les gens que tu accompagnes?
Oui, je pense que c'est quelque chose qui est très politique, en fait, de faire ces projets-là et de dire... de militer en quelque sorte pour que l'agriculture aussi perdure en France. Et c'est vrai qu'il y a la question des territoires aussi. Et il y a des études qui ont été faites, je n'ai pas des chiffres, mais une ville comme Montpellier, au bout de combien de jours, elle serait totalement dépouillée en termes de denrées alimentaires à un moment donné où on ne pourrait plus importer, en fait, faire venir parce qu'il n'y a plus de terres. Il n'y a plus d'agriculture autour des villes non plus. Et donc, pour moi, c'est des vrais projets politiques. Et c'est un peu ce que vous partagez aussi tout à l'heure sur la question des tiers-lieux. Moi, on fait de notre côté, mais à un moment donné aussi, on fait politique, nous. Mais il faut aussi qu'à un moment donné, les politiques, elles prennent à bras-le-corps cette question-là. Ouais. Tout à fait. Mais pour l'instant, on le fait, nous.
Oui, c'est un peu les deux sens de la politique. C'est à la fois la vie de la cité au sens de nos territoires. Comment est-ce que nous, on s'implique et vers quoi on a envie de tendre? C'est vrai que nous, c'était vraiment l'autonomie alimentaire du territoire qui nous portait. Et puis, il y a le sens politique, la politique politicienne aussi. Voilà, il y a ces deux aspects qui n'arrivent pas forcément à se, voilà, à se comprendre. Mais c'est là-dessus aussi qu'il faut travailler.
Et les retours, les ressentis que vous avez, justement, parce que notamment à travers ces actions culturelles aussi, c'est une manière de toucher plus de monde. Quel impact, quel retour vous sentez de la part, justement, de gens qui découvrent ça?
À la Condamine, c'est venu assez naturellement le fait de vouloir faire de l'accueil pédagogique. Parce que pour nous, il y avait vraiment l'intention de toucher, en fait, des enfants de la ville. Et de leur faire, de leur permettre de mettre les mains dans la terre, de comprendre d'où venaient les légumes, etc. Et c'était une vraie démarche Ouais, de permettre en fait à des publics divers de découvrir ce que c'est. Et les événements culturels favorisent ça aussi, en effet, de faire venir, par le biais de la culture, on fait venir des personnes et puis on organise, alors je ne sais pas si les autres font ça, mais des visites de la ferme. Voilà, en tout cas, c'est ce qui se fait à la Condamine, comment toucher les publics diversifiés.
Ouais, sur cette question des publics, nous, on a une image qu'on aime bien, c'est l'idée que le tiers-lieu, c'est plusieurs portes d'entrée, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule chose qui est proposée, il y a plein de choses qui sont proposées et qui permettent à plein de publics différents d'entrer, en fait, sur ce lieu et de pouvoir y trouver quelque chose qui va leur correspondre. Et du coup, c'est quand même ça l'idée, de pouvoir aussi proposer des choses en collectif ou des choses au grand public, comme des journées comme aujourd'hui. C'est de pouvoir en fait avoir un. Voilà, que ça plaise à des gens très, très variés.
Alors pour vous, la Bobine et Binette, la suite des projets, c'est quoi l'année qui vient?
La bonne question. Eh bien, déjà, je sais pas, on va se reposer demain. non, après là, bah, on a des dates de prévues pour les séances de cinéma, parce que c'est ce qu'on fait aussi principalement durant l'année. Du coup, on a les dates, les séances de cinéma en plein air à la Grange, qui seront le 26 juillet et le 29 août, si je ne me trompe pas, ou c'est l'inverse. Bon, il y a voilà, mais en tout cas fin juillet, fin août. Et puis après, on va réfléchir. Après, on fait aussi partie d'une association qui s'appelle La Source de Roussière, qui a candidaté auprès du département de l'Hérault pour investir le domaine de Roussière et y proposer un tiers-lieu. On fait aussi partie de ce projet-là à notre échelle, on va dire.
Eux qui viennent juste de commencer aussi. Hein,
oui,
je crois,
ça vient juste de démarrer.
Ils font leur première journée porte ouverte.
Il y a eu l'omelette Pascal. Voilà, c'était la première journée d'ouverture au public. Et voilà, les choses vont vraiment commencer la fin d'été et à la rentrée. Donc voilà, y a, après, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais on y va.
Ouais. Nathalie, pour toi du coup, si on veut venir te rencontrer, rencontrer tes bêtes aussi, c'est où? C'est à Brissac, c'est ça pour l'instant?
Oui, ouais. Oui, ça reste principalement Brissac, pour le moment en tout cas. Et oui, parce qu'il y a de très beaux pâturages, parce que l'accueil est favorable et parce que le troupeau, voilà, y évolue depuis un moment. Maintenant, voilà, pareil, il y a des choses qui vont bouger, quoi, parce que j'ai besoin. Parce que j'ai besoin d'interagir, en fait, parce que je ne crois plus à l'installation des jeunes agriculteurs hors cadre familial, tout seuls dans leur coin, en fait. Je crois que c'est pas forcément pérenne. Je pense qu'il faut imaginer d'autres choses. Ouais. Et voilà, du coup, j'essaye d'imaginer, de mettre en place d'autres choses, mais c'est pas encore fait. On en parlera.
On en reparlera
quand ce sera fait, quand ce sera bien lancé, ouais.
Julie, Étienne et Patrick, où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous recroiser, se donner quelques rendez-vous avant la fin de l'émission? Passer, peut-être déjà donner leur rappeler où est-ce qu'on peut trouver vos fermes, par exemple.
Nous, du coup, juste à côté du cirque de Navacelles, et le rendez-vous, l'invitation, elle est du 3 au 6 août sur les rencontres des luttes sociales et écologiques, les résistantes. Donc tout est déjà un peu en ligne, la com est lancée. Si vous voulez la regarder, on sera avec plaisir de vous accueillir.
Nous, on est pour l'été, en tout cas, on est sur l'Arzac. Et en hiver, on peut nous trouver au nord du Pic Saint-Loup, du côté de Claret-Lauré-Sauterargues. En dehors des résistantes, où on sera aussi, les rendez-vous, ça peut être les marchés de Montredon cet été, donc sur le plateau, qui sont tous les mercredis à partir de 18h et qui allient un marché de producteurs locaux du plateau ou de pas loin autour, avec concerts, spectacles ensuite. Donc on reste dans l'agriculturel.
Ouais, faut aller voir là-haut, c'est Woodstock, c'est super. Et Julie, comment est-ce qu'on peut te contacter, voir aussi ce que tu proposes, si ça a fait peut-être germer des idées aux gens qui nous écoutent?
Alors, le plus simple, c'est d'aller sur mon site internet, voilà, pour me contacter. Et c'est junouli.fr.
Jus comme Julie.
Comme Julie, et le nous au milieu du nous. Ouais, voilà.
C'est... Chouette, non?
Et sinon, si vous voulez, il y a la Condamine. Du coup, il y a les événements culturels à la ferme de la Condamine. Je crois que c'est le premier samedi du mois de juillet qu'il y a une sidérale. Donc, voilà. C'est possible aussi là, j'y serai certainement. Bon.
Merci à vous toutes et tous d'être venus partager ce petit moment avec nous. Merci Stéphanie pour l'organisation de ce plateau et de tout l'événement et tous les bénévoles qui sont derrière. Merci à Fabien.
Oui, il y a du monde derrière.
En régie. Merci à la pluie de tomber quand même. Voilà. Et on se quitte en musique. Et bon après-midi à vous sur les ondes de Radio Escapade.
Sonne délicat, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière pour tuer l'ennui. J'ai dans ma veste les extraits de Ride Digest. Et dans ce beau pays, y a écrit que des gars la coulent douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le soir, au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de ce métier. Moi je fais des trous dans les billets, je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des toutes secondes classes, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous. Poissonneur de lilas, pour invalide changer à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confetti. J'en ramène jusque dans mon lit et sous mon ciel de faïence. Je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois les vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois le bateau qui vient me chercher. Pour sortir de ce trou, je fais des trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille et je vois que je déraille. Mais je reste dans mon trou à faire des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des trous. Je suis le poinçonneur de lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'aile, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrais m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route et coûte que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. De quoi tenir d'aide, de quoi prendre un flingue. Se faire un tour, un petit tour, des petits trous. Et on mettra dans un grand tour, je n'entendrai plus pas les trous. Un petit dernier. Un petit dernier trou. Aïe, c'est vrai. Dernier trou, dans le trou, sorti du trou.